الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا رضوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله nous allons parler de quelques droits et devoirs de la femme en islam. Et vous savez que le droit des époux, c'est un amana. Et tout amana, tout dépôt est une grande responsabilité. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons présupposé le amana aux animaux, aux montagnes, فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا. Et tous ont refusé de porter le amana, وَحَمَلَهُ الْإِنْسَانِ. Et l'être humain a décidé de porter le amana. Donc, ça veut dire que le amana est une responsabilité très très lourde. Allah a ordonné son prophète et ses serviteurs dans ce sens. Et le bonheur des maisons est basé sur le respect des droits que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à chacun. Et c'est la raison pour laquelle Allah dit, où il dit, celui qui a bien œuvré, que ce soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous les pourvoirons d'une vie paisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc signalé que une vie heureuse est fonction de la piété de toute personne. Je répète, à travers ce verset, on comprend que une vie heureuse dans le foyer est fonction de cette piété. Et le non-respect de cette piété pourrait être ou alors est la cause de beaucoup de malheurs. C'est la raison pour laquelle on peut te dire que lorsque l'homme rentre fâché, il vit en peine, dans la peine, et la vie dans son foyer devient amère. Et c'est la raison pour laquelle l'islam a mis un accent là-dessus. De telle sorte que, avant qu'une jeune fille n'aille en mariage, qu'elle puisse déjà savoir quels sont ses droits et devoirs, pour qu'elle puisse être à la hauteur de l'attente de cette lourde et des attentes de cette lourde responsabilité à elle attribuée. Mais malheureusement, ces derniers temps sont faits de constater que on grandit, nous n'avons pas été appréciés à prendre nos responsabilités ou à assumer nos responsabilités. Et l'origine des couples est basée sur les passions, les désirs charnels et rien d'autre. D'où les ténérités de beaucoup de couples de nos jours. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de parler d'un certain nombre de choses qui pourront nous aider à pouvoir aider la jeune fille dans son foyer. La première des choses, on va d'abord parler de la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah est, n'est-ce pas, la chose qui encourage les gens à respecter leurs droits. Parce que celui qui croit en Allah et il est mohsin, il tend vers la bienfaisance et la perfection, il adore Allah comme s'il le voyait. Et s'il ne voit pas Allah, Allah le voit. C'est la raison pour laquelle un homme vient voir Hassan al-Basri et lui dit, j'ai une fille, à qui dois-je la donner en mariage? Hassan al-Basri répondit, le pieux, car s'il la garde, il va respecter ses droits, et s'il la divorce, il le fera dans les bonnes conditions. Ça veut donc dire que si chacun des conjoints a la crainte révérentielle, cela les préservera de certaines injustices dans leur foyer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet effet, y a-t-il pas dans le corps humain un morceau de chair? S'il est pur, tout le corps est pur, et s'il est impur, tout le corps est impur. N'est-ce pas le cœur? Pour dire que tout part d'abord à partir de cet appel profond, de cette condition dans laquelle on ne doute pas, qui vient nous amener à pouvoir bien nous comporter, que ce soit en public ou en cachette, et qui vient nous aider à pouvoir préserver les droits des uns et des autres. Ça veut dire que la première des choses, c'est d'abord la crainte d'Allah. La deuxième des choses, c'est l'environnement. Car vous savez que l'environnement a une grande influence sur le comportement de la jeune fille et de tout être humain. Allah subhanahu wa ta'ala et dit que هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. C'est lui qui fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Pour dire qu'il suscite à partir de certaines choses d'autres choses qui sont meilleures ou encore qui peuvent être leur contraire. Il va sans nul doute dire que l'influence de l'environnement n'est même pas à douter. C'est pour ça que parfois, chez les Arabes, ils aiment dire que Al-Faqiru la yu'tamalim salah, ou Kamaya Kolon. Que lorsque vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas la donner. Donc le pauvre ne donne que ce qu'elle a. Ce qu'il a autant pour moi. Qu'on peut dire que, généralement, ce n'est que ce qu'on a eu comme éducation qu'on peut refléter. Parce que quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous n'êtes pas en même de pouvoir donner ou agir de la bonne manière. Et c'est aussi pour ça que, quand une personne grandit dans certaines conditions, ces conditions ont une influence sur cette personne. Ne soyez pas étonné, une personne qui a vécu dans un environnement conflictuel, que lorsqu'elle est dans son ménage, elle ne cherche qu'à reproduire ces conditions auxquelles elle a été habituée, fût-ils bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui ont la facilité de pouvoir insulter, de pouvoir bagarrer, de pouvoir s'en foutre, de pouvoir être négligent ou encore de bien se comporter parce qu'elles sortent d'un certain moule. Hein? Elles sortent d'un certain moule. Et c'est la raison pour laquelle on dit que il faudrait tenir en compte l'environnement dans lequel la femme a été éduquée. Et vous savez que parmi les premiers droits, elle doit savoir qu'elle est sous la dépendance d'un homme.
Si è puntata Allah subhanahu wa ta'ala di ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah 'alayhim fi salatin diversi. Pour que les hommes ont la préséance sur les femmes par rapport au bienfait qu'Allah leur a attribué et par rapport à la prise en charge que qu'ils dépensent sur ces femmes. Étant donc ceux qui prennent en charge la famille, il va sans doute de dire que ce que la femme doit comprendre après cela, c'est que la gouvernance et la gérance de leur foyer dépend de l'homme. Bien que, même si on dit qu'il est le gouverneur, ou si vous me permettez de dire le capitaine, là, cela n'empêche pas que la femme puisse donner son point de vue, sans pour autant qu'elle s'immisce jusqu'au moindre détail et qu'elle s'immisce dans les affaires, parfois qui ne la concernent pas, ou encore qui fait le bras de fer avec ces derniers. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un hadith il dit Allah a maudit les femmes au massif. Les femmes qui passent le temps à faire le bras de fer, qui veulent prendre la place de l'homme, il faudrait que chacun reste à sa place. Parce que chacun d'entre eux, l'homme et la femme, ils ont une place bien déterminée et l'un ne peut pas être l'autre, bien qu'il se complète. Ensuite, parmi les habitudes qu'on peut recommander à cette dernière, le respect et la satisfaction de son époux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Ordonne à ta famille d'observer la prière, nous ne te demandons pas leur subsistance et la bonne fin appartient au pieux. Pourquoi est-ce que Allah a donné plutôt ce pouvoir à l'homme de pouvoir exhorter, de pouvoir ordonner la femme à pouvoir observer la prière et d'être patient, d'être persévérant? C'est simplement pour dire que c'est à lui cette préséance et ça c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme. Et Allah dit que Kitab Ismaïl, rappelle-toi d'Ismaël qui était un serviteur dévoué d'Allah car il ordonnait à son épouse de craindre Allah, d'observer la prière. Et de ce fait, la femme doit satisfaire les besoins de son mari. Sauf lorsqu'elle est malade, c'est-à-dire elle a une raison assez claire. Elle ne devrait pas sortir de sa maison conjugale, de son domicile conjugal, sans l'avis de son mari. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si vos épouses demandent d'aller, la permission d'aller à la mosquée, donnez-leur la permission d'aller à la mosquée. Et ça, c'est un hadith authentique qui nous fait comprendre que si la femme doit demander la permission pour aller à la mosquée, c'est-à-dire pour aller prier, ça veut dire que la prière est quelque chose d'obligatoire. Si elle doit demander la permission pour aller prier, à plus forte raison pour aller faire le Congo sans vous, à plus forte raison pour aller au Zambie, à plus forte raison pour aller rendre visite, à plus forte raison pour des balades difficiles, vous comprenez que si elle doit demander la permission pour aller à la mosquée pour prier, elle doit demander la permission pour toute autre chose.
Ce n'est pas que le mari sort le matin, il rentre le soir, il trouve que madame n'est pas là. Il appelle et dit qu'elle ne me dérange pas. Quand tu te balades souvent, je te dis quelque chose. Elle rentre à son heure voulue, elle ne demande pas la permission, et là on dit qu'il y a problème. Et c'est le début des problèmes. Et les savants ont dit qu'il n'appartient pas à la femme de sortir de sa maison sans l'autorisation de son mari. Et le fait équivaut à la rébellion. C'est une rébellion que de sortir et un manque sans l'autorisation de son mari et un manque de respect manifeste. Et c'est aussi enfreindre une des lois fondamentales du foyer. C'est pour ça que certains savants pensent que si une femme laisse son domicile conjugal pour le domicile de ses parents sans l'autorisation de son mari et reste là-bas pendant longtemps, la prise en charge de ce dernier est tombée. Pour dire que quoi? Vous sortez de chez votre mari, de votre maison, pour partir chez votre père, chez votre mère, chez votre frère, après une dispute. Il dit que ne sortez pas, venons résoudre les problèmes, ou alors je ne vous donne pas la permission de sortir, vous sortez quand même, vous allez là-bas, vous faites un, deux ou trois jours. Ça veut dire que lui n'est même plus, ce n'est même plus lui qui prend les décisions, c'est eux. Et vous revenez après pour la vérité au lieu de servir soit à la maison, que donne-moi l'argent de ma ration. Il vous dit que non, vous n'êtes plus avantage. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti du domicile conjugal sans sa permission et vous y êtes resté sans sa permission. Donc, c'est pour dire que les femmes ne devraient pas sortir de leur maison sans l'autorisation du mari. La femme doit préserver les biens de son mari, car c'est aussi un amant, hein, elle sera interrogée sur comment elles ont dirigé leur troupeau. Et elle doit aussi préserver l'honneur de son mari. Quand on dit que les biens de son mari, ou alors l'honneur, c'est vague. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on prenne quelques exemples. Le premier exemple, c'est que parmi l'honneur, elle ne laisse personne entrer dans sa maison sans l'autorisation de son mari. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas le droit d'entrer dans votre maison conjugale sans l'autorisation du mari. Ça devrait prendre un exemple. Il y en a qui veulent souvent jouer à l'intelligence. Sachant que le mari ne voudrait pas qu'elle vienne, elle sait que non, il est parti en voyage, elle est le soir. Ou alors il est parti au travail, il va rentrer dans la soirée. Par conséquent, tu peux venir, viens, on passe là-bas un peu de temps, on fait notre petit combo avant que je suis là en Iran. On dit que non, là vous avez commis une infraction. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage d'Adjin a dit que n'entrez chez vous que celui dont vous agréez. Et les savants disent que celle qui désobéit, ce droit fondamental n'est pas à l'abri des calamités. Hein? Les savants disent que la femme qui désobéit à ce droit fondamental n'est pas à l'abri des calamités. Est-ce que c'est faux? Imaginez-vous que votre mari ne voudrait pas que X, Y vienne chez lui ou chez vous. Lorsque vous permettez à ce X, Y de venir chez vous, est-ce que vous êtes à l'abri du soupçon? Est-ce que si un problème arrive, vous êtes garant? Demain, quand il vous soupçonne,
c'est pas trop de ça, vous ne pouvez même pas respecter un petit devoir, parce que c'est de son droit de vie qui entre chez lui ou chez vous et qui n'entre pas. Surtout qu'il se dit que telle personne n'est pas une bonne compagnie. Et après, quand il va vous soupçonner, quand il ne va pas vous respecter, quand il va vous traiter de tout, sachez que le problème est venu parce que vous n'avez pas respecté déjà une loi fondamentale qui est celle de ne laisser personne entrer dans son domicile sans l'autorisation du mari. Entre autres, parmi ses caractères, elle ne doit pas dépenser outrageusement. Parce que vous savez que elles doivent être du juste milieu dans les dépenses et penser aussi que celui-là, il travaille dur pour amener ce qu'on a et ne pas dépenser n'importe comment. Parce que les dépensiers outrageux, comme Allah a dit, inna mubazirina kanu ikhwana shayatin. Hein? Que les femmes qui dépensent outrageusement, qui dépensent sans calculer, elles s'en fouettent de la plus de les biens de son mari, ou bien même qui dépensent sans calculer, sont les frères de Satan. C'est Allah qui dit dans le Coran. Hein? Par conséquent, elle doit dépenser avec une fille et être du juste milieu. Parmi les droits des biens et de l'honneur qui sont à préserver, il y a le fait qu'elle doit être chaste et fidèle à son mari. Je dis bien chaste et fidèle. Qu'est-ce qu'on entend par la chasteté? Pour nous, être chaste est le fait d'être d'abord bien dans son vestimentaire, dans ses apparences, et aussi de ne pas être vulgaire dans sa manière de parler. Parce que si vous êtes marié, vous mettez les lièvres à gagner, vous mettez le pongo ou le tango, vous mettez les alpagas, vous mettez l'autre que j'ai encore quoi, j'ai oublié, hein? Hein? Le pantalon de Moriva, vous voyez que vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas votre mari. C'est pour ça que on parle bien d'être chaste et fidèle. Elle n'est pas celle-là qui doit sortir les cheveux au vent, elle n'est pas celle-là qui doit sortir avec toute sa féminité étalée au grand jour. Elle doit être chaste et fidèle. Parce que si elle sacrifie son mari, elle a fait désobéir aux injonctions d'Allah. Parce que Allah a fait que la femme soit la gardienne des secrets de l'homme. Elle soit la gardienne de sa généalogie. Parce que si elle va ramener un enfant dehors, elle a ramené un étranger chez ce monsieur et elle fait un étranger manger ce qu'il n'avait pas le droit de manger et usurper certaines choses. On ne va pas dire utiliser ce qui ne lui revient pas de droit. C'est pour ça qu'un homme qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je vais épouser une telle. C'est une femme, mais elle est enceinte. Il lui a dit, voudrais-tu remplir un récipient qui ne t'appartient pas? Voudrais-tu remplir des oreilles qui ne t'appartiennent pas? Voudrais-tu remplir les yeux d'un liquide, des yeux qui ne t'appartiennent pas ou la bouche qui ne t'appartient pas? On a donc compris que c'est un flagrant délit que de coucher même d'abord avec une femme qui est enceinte d'un autre que vous, parce que c'est interdit cela de mariage, à plus forte raison ramener un enfant qui n'est pas de celui-là et fait ici purifié de l'argent de ces derniers, de la nourriture de ces derniers, et tous les biens qui appartiennent à d'autres enfants et non à celui-là. Donc, elle doit être chaste et fidèle. Car préserver son sexe est préserver l'honneur de l'homme. Et elle doit préserver, se préserver en son absence, surtout en ces temps de perdition. C'est pour ça que, à l'origine, l'homme peut trouver qu'il n'y a pas de problème que vous puissiez sortir parce que c'est un droit et c'est pour vous et c'est un devoir que vous puissiez demander la permission de sortir, mais il peut vous empêcher lorsqu'il se rend compte que c'est un temps de perdition. Par exemple, quand c'est toi avec ce mélange avec des femmes de réputation douteuse, quand c'est pour aller faire le commérage, quand c'est pour aller à des lieux que l'Islam a interdit, et puis quand il a peur que vous puissiez tomber dans ce qui est interdit, dans ce cas, il serait mieux que la femme reste chez elle. Elle ne dévoile pas ses secrets et son intimité, même si c'est un jeu ou un pic. Je dis bien, la femme ne dévoile pas les secrets et l'intimité et son intimité avec son mari aux autres, même si c'est un jeu ou un pic. J'entends par pic les petites blagues qu'on fait de temps en temps. J'entends par pic ce qu'on appelle vulgairement la papouille. J'entends par pic ce qu'on appelle chez les huîtres et le mouquin. Ça ne devrait pas avoir les secrets. Ce qui se passe entre la femme et son mari est gardé ça jusqu'à ce qu'elle meure. Sauf si elle pense que sortir ça peut avoir par rapport à une situation donnée et trouver une solution. Exemple, il y a des problèmes. Et elle décide d'aller voir un cadre, un juge, ou alors un imam, pour lui dire, voici les problèmes que j'ai, voici les problèmes que j'ai, qu'est-ce que vous me conseillez, est-ce qu'on peut trouver une solution? Dans ce cas, elle peut sortir certaines vérités pour qu'on puisse trouver solution. Et le prophète, ailleurs, il a dit, ne sortez pas, sallallahu alayhi wa sallam, ne sortez pas certains secrets, parce que pour vous, cela est minime, c'est infime, mais cela est très grand auprès de qui? Auprès d'Allah. C'est banal auprès de vous, mais cela n'est pas négligeable auprès d'Allah. Et parmi les erreurs que les femmes font souvent, lorsqu'elles se disputent, premier réflexe, elle court d'abord chez sa mère ou chez son père. Elle dévoile tous les secrets. Elle déballe tout. Elle les descend correctement là-bas. Et parfois même, elle le fait à tort parce qu'elle ne dit que ce qu'elle sait que quand ses parents vont le savoir, ils ne vont être qu'à sa cause. Hein? Elle ne dit même pas souvent ce qu'elle a fait. Même si elle a raison, même si elle a tort, elle doit abandonner le fait que quand il y a problème, elle court d'abord chez ses parents pour dévoiler les secrets de ses derniers. La femme dans son foyer, parmi les autres caractères qui rentrent dans le même sujet de Amaya, elle doit être au service de l'homme. Car la direction de son foyer lui appartient. Et même, elles doivent savoir que Allah dit qu'elle a les mêmes droits que les semblables dans les bonnes conditions. Et les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté des hadiths qui prouvent qu'elles s'occupaient de lui. Et je crois qu'une de ces femmes a rapporté d'un hadith qu'on s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam
à des périodes dont savait-il aller rentrer, on a prêté jusqu'à son tiwa. Tiwa qui est la racine ou la branche avec laquelle on se nettoie les dents. Et vous connaissez le hadith de Aïcha, lorsque le prophète sallam était malade, qu'est-ce qu'elle faisait? Regardez un peu comment elle servait son mari. Elle prenait sa chambre qu'il est fatigué. Elle ramollissait d'abord elle-même les tuyaux afin de donner à son mari pour qu'il puisse ne serait-ce que se brosser les dents. Regardez jusqu'à quel niveau ces femmes étaient humbles et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevées. Elle a le même droit que ses semblables, parce que tous ont les mêmes droits. C'est pour ça que lorsque Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est venue voir le prophète, il a dit, je vais t'enseigner un dua qui est meilleur que d'avoir un domestique. Elle écrasait les céréales pour leur mari, et elle écrasait aussi c'était le point des céréales pour les animaux qu'ils avaient à la maison, au point où certaines d'entre elles avaient le même très dur. Elles avaient la paume des mains très dure. Et ça, c'est la preuve que ces femmes, elles étaient nobles, mais elles servaient leur mari. Et la majorité des savants sont tombés unanimes en dehors d'une petite minorité que la femme doit être au service de son mari. Et il est clair que l'origine est que la femme s'occupe dans son foyer, même si certains discutent ou discutent ce genre de propos. Et vous devez savoir qu'elle sera interrogée sur comment est-ce qu'elle a dirigé son foyer. Et le manque de respect de cette loi fondamentale peut entraîner beaucoup d'autres dégâts dans un couple. Parce que, imaginez-vous que le mari, lorsqu'il sort le matin, il est sorti, sa maison était mal entretenue. Sa maison était négligée, ses biens étaient abandonnés. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va penser? Il voit sa propriété tomber en ligne par la négligence de celle en qui il a confié cela. Et après, ça commence à les chasser de son foyer parce que un des devoirs fondamentaux de la femme qui est d'entretenir son foyer, mettre de l'ordre, respecter le amana de son mari et garder tous ses biens et mettre de la gaieté dans le foyer n'a pas été respecté. On a posé la question à Ibn Qayyim concernant le fait que l'homme soit obligé de faire le ménage, faire la cuisine et s'occuper des travaux domestiques. Il est obligé. Il a répondu, et d'autres ont dit Aïn al Munka. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Ça dit que c'est cela même le détestable. Et vous savez que les lycées d'avant là, quand ils disaient détestable, ça veut dire que c'est interdit. Hein? C'est interdit. Donc vous dites que quand l'homme est déjà obligé de laver les assiettes chez lui, de préparer, hein, de s'occuper des tâches ménagères, de vivre obligé, hein, au point où la femme peut rentrer, lui dit que mais moi j'étais en train de faire, tu n'as pas lavé les assiettes pour toi. Tu ne vois pas que le salon est sale, il dit que ça là même, c'est ça qui est le monde, c'est ça qui est nécessaire. En effet, la femme doit s'occuper de ce qui lui revient, et c'est ça la religion originelle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ey imra'ati ma taqwa, zawjuha radiyan anha dakhala al-jannah » Que toute femme qui meurt et son mari est satisfait d'elle entre au paradis. Bon, la satisfaction de ces derniers est un corollaire entre les corollaires pour son entrée ou son admission au paradis. Et les femmes doivent savoir que, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qui se dit, son bonheur passe par les recommandations divines. Et car ces recommandations sont meilleures pour elle et meilleures pour son foyer, même si de nos jours, on voit certains courants qui tendent à empoisonner nos mentalités. Et pour changer ces mentalités, parmi les choses qu'on peut citer, il faudrait que la femme sache d'abord la force des invocations. Elle doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la force de satisfaire son mari, ainsi que chercher refuge contre la fatigue, contre la paresse, contre la négligence et contre tout petit mot qu'on ne voit pas souvent venir, mais qui peuvent miner l'ambiance d'un coup. Parce que si elle se perd, elle ne doit pas oublier que la montagne n'est pas faite d'un gros caillou. Hein? Est-ce que la montagne c'est un gros caillou? La montagne c'est des petits, petits, petits cailloux qui se superposent les uns sur les autres. Et ce sont ces petites choses qu'on néglige souvent, qui finissent souvent par taper l'ambiance dans un couple et commencent à nous amener à la dérive. C'est pour ça qu'elle doit invoquer Allah, de la guider dans le droit chemin. Elle doit invoquer Allah de lui donner la force de satisfaire son mari. Elle doit invoquer Allah de la protéger contre la fatigue, la paresse, la négligence et tous les autres petits caractères qui ne sont pas lois. Entre autres, elle doit aussi saisir les facteurs qui l'amènent à mieux adorer son Créateur et doit se soumettre à la volonté d'Allah et respecter son mari. C'est-à-dire que respecter son mari, ce n'est pas seulement par rapport au mari qui est devant elle, mais c'est parce que c'est une injonction divine afin de vivre dans cette ambiance conviviale et lui permettre de sauvegarder le patrimoine de ce dernier, la protection du dépôt, garder ses secrets. Elle ne peut atteindre cela que en toute ferveur, et c'est la raison pour laquelle certains savants disent que quand vous méditez dans le Coran, la majorité des versets qui vont venir parler des lois, c'est-à-dire des droits et devoirs dans le Coran, ça commence toujours par Ya ayyuhan ladhina amanu. Ça commence toujours par quoi? Oh, ceux qui ont cru. Oh, vous qui avez cru. Pourquoi vous croyez que la majorité des versets qui viennent dans les Saint Coran commencent toujours par Oh, vous qui avez cru? On interpelle qui? Une catégorie de personnes en se basant sur quoi? Sur leur foi. C'est pour ça que la femme ne peut vraiment respecter certains de ses droits que lorsque elle est parfaitement croyant. Et ce ne sont que les pieux qui peuvent respecter ce genre de contrat et ce genre d'obligation de la plus belle manière. Et parmi ce qu'on donne comme conseil à la femme, elle doit savoir que si elle se comporte bien, elle respecte tous ses droits et devoirs, conformément à l'éthique et à la morale.
Elle ne doit attendre aucun remerciement de son mari ou encore une parole douce. Mais elle doit se dire que, en faisant cela, elle respecte la recommandation divine. Hein? Et pour elle, en se soumettant à ce dernier, elle se soumet à Allah. Au point où il y a quelqu'un qui raconte qu'ils ont souvent été étonnés par le comportement de leur femme. Lorsqu'ils ont des problèmes et qu'ils ont été injustes envers elle, et ils savent qu'ils sont injustes envers elle, lorsque la nuit arrive, ils sont étonnés que cette dernière vienne leur demander pardon pour l'injustice qu'elle a commise, tout en sachant que, effectivement, c'est eux qui ont tort. Pourquoi les femmes peuvent arriver à faire cela? C'est parce que justement, elles font ça par crainte d'Allah et non par crainte de celui qui est en face d'elle. Et parmi les choses qui encouragent la femme à bien se comporter, et on encourage les femmes à avoir ce comportement, les femmes devraient méditer. Il faudrait qu'elles méditent avant qu'une parole ne sorte de leur bouche, avant qu'elles n'agissent, elles doivent réfléchir sur la meilleure des méthodes, se poser les questions sur les répercussions de son acte, tant sur les points négatifs que sur les points positifs. Elle doit respecter le droit des préférences et respecter la place de la femme. Car les femmes qui défient souvent les hommes, cela peut entraîner beaucoup de choses qui vont nuire la vie de couple. Parce que les hommes, lorsque leur masculinité ou alors leur autorité est mise en lieu, est mise en doute, souvent ce n'est pas la période où les idées sont mieux placées, et le muscle va céder la place à la tête et à la fin ça va se terminer par soit une rixe si elle est aussi forte, soit une bastonnade d'un côté ou de l'autre si l'un des faibles et beaucoup d'autres problèmes. Et l'homme, vous savez que souvent c'est un animal qui sait bien se comporter et c'est aussi un animal qui est souvent dominé par ce côté animal. Excusez-moi d'utiliser cette expression. C'est pour ça que certains savants disent que la plupart des cas où ça devient en bagarre, c'est le fait que la femme a voulu se prendre pour le patron. Je n'ai pas dit la patronne. J'ai dit elle a voulu se prendre pour le patron, c'est elle qui dit que la loi. Généralement, ça dégénère et on assiste à ce genre de scène. Parmi les autres familles que l'on peut conseiller, elle doit éviter d'introduire une tierce personne dans ses problèmes. Ses problèmes conjugaux, elle ne doit pas se colporter. Ces secrets ne doivent pas être connus de tous, et puis ça ne doit pas courir dans les rues. Hein? Ça reste quelque chose d'intime et de privé. Parmi les comportements, elle doit éviter l'orgueil et vanter ses mérites auprès de son mari. Donc, si la femme fait du bien à son mari, elle n'a pas besoin de le lui rappeler chaque fois. Si ce n'était pas moi, tu es quoi? Si ce n'est pas moi qui dirige, tu es quoi? Toi qui sors d'où? Tu es de telle famille. Tu ne connais pas ma famille. Tu ne connais pas mon père. Tu ne connais pas mon frère. La femme doit éviter ce genre de propos. Elle doit éviter d'être orgueilleuse. Car si elle est orgueilleuse, elle doit savoir que celui qui a reçu un brin d'atome d'objets dans son cœur ne va pas entrer au paradis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de manger ses mérites, car ça fait partie des choses interdites. Sauf dans un cas, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَهَجِّ. Laissez les autres parler de vous. Et même quand vous êtes présent, il y a certaines règles. Il doit d'abord dire que là, vous êtes qui ahad. Inch'Allah, je ne veux pas manquer ou finir chez l'auprès d'Allah, mais je pense que c'est une bonne personne. Il faudrait qu'elle sache que quand elle fait une bonne action à son mari, ça ne doit être que la récompense du jour qu'elle doit attendre. Et certains savants ont dit que parmi les choses qui montrent la réussite d'une femme ici, c'est ou des hommes, c'est que quand ils font un bien, ils cachent aux autres les biens qu'ils ont fait. Ils gardent ce bien fait caché. Et il vaudrait mieux, ça c'est un conseil aux hommes, il vaudrait mieux éviter de prendre l'argent de la femme. Sauf dans le cas où vous allez la voter. Parce que vous connaissez comment elles sont. Elles vous donnent l'argent aujourd'hui, vous laissez soirée pour prendre les taxis. Demain, c'est pour faire ceci. Après, demain, vous êtes à payer la maison. Pour rembourser, après 2 semaines, tu ne rembourses pas mon frère. Tous les villages savent que toi, la tienne, on ne vaut rien parce que c'est elle qui l'argent. Parce que c'est elle qui te donne l'argent des taxis. Parce que c'est elle qui fait ceci dans le foyer. Donc, il faut éviter ce genre de choses afin de garder votre rôle de patron, votre rôle de capitaine dans le foyer. Ensuite, il y a une autre catégorie de femmes qui nous intéresse. C'est celles femmes qui désobéissent à leur mari. Et lorsqu'elles le font, elles entraînent tout le reste à désobéir, parmi lesquels les enfants. Donc elle a des problèmes avec l'homme, elle met les enfants dans les problèmes qu'elle a avec leur père, au point où elle entraîne ces derniers à ne plus respecter leurs parents. On dit que vos problèmes entre votre mari et vous, ça regarde votre mari et vous. Vos enfants, ils n'entrent pas dedans. Normalement, vos problèmes sont censés se limiter à la porte de votre chambre. Dès qu'il y a déjà une telle question, vous devez faire ce qu'on appelle la paix armée. Hein? Une paix armée, une paix momentanée. Parce qu'il y a encore étrangers et parmi eux, il y a les enfants. Certains mamans discutent avec le père dans la chambre, dès qu'ils tournent le dos pour aller, venez à payer vos lacs. Vous voyez notre père. Regardez ce qu'il fait. Un beau rien. Quelqu'un dit, et puis demain, je même on te dit que c'est votre père. Subhanallah. Vous dites ça au père de ses enfants. Vous montez ses enfants contre leur père parce que vous êtes dans les problèmes ensemble. Et les savants disent que aucune femme au monde ne peut monter ses enfants contre leur père sans qu'elle-même ne reconnaisse les bons fruits de ces actes obscènes. Et vous savez bien la date qui dit que si c'est le vent, le compte la tempête. Elle-même, elle sera la première à être victime de ce genre de comportement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Elle doit en premier éduquer ses enfants à respecter leur père, quel que soit ce qu'il est dans la vie. Elle doit leur inculquer les valeurs éthiques et morales. Elle doit raffiner leur éducation quelle que soit la situation qui prévaut dans leur foyer. Maintenant, il y a une question que une personne a posée l'autre jour. Si un homme interdit à sa femme de recevoir un des parents. Doit-elle obéir? On dit que lui, elle doit obéir. Mais tout en sachant que le péché qu'il y a à l'intérieur revient au mari, mais elle ne va pas ajouter un péché sur un autre péché. Parce que le fait qu'il interdit peut être considéré comme le fait de couper les liens de sang. Et vous savez que couper le lien de sang est interdit. Le lien de sang est sacré. Il ne peut pas interdire ce dernier de recevoir son frère, sa soeur. Mais s'il le fait, elle est obligée de faire quoi? De refuser ou d'obéir. Parce qu'on dit que là, il y a du mal à la chaîne, comme il y a la chaîne, et il y a la chaîne. Que son mauvais comportement à lui ne vous entraîne pas à mal vous comporter. Laissez-le, il vous a amené à couper le lien là, il va payer, il va répondre de ça devant Allah. Il va répondre de cet acte devant Allah. Mais vous devez obéir. Hein? Vous devez obéir. Pas qu'il dit ça, vous dit ça. Mon frère, il a raconté pour lui là-bas, le fait de lui. Vous partez. Mais après que celui-là soit parti, vous allez laisser, ça va engendrer plus de mal que de bien. Parce qu'il va poser sur l'occasion pour régler les comptes. Et ça fait l'énergie. Sauf dans un seul cas. Quand ses parents sont de moralité douteuse. Mais les savants disent qu'ils ne doivent pas l'empêcher de venir, mais il en fait, il donne l'interdiction en son absence. Je prends un exemple. Quelqu'un qui contacte quelqu'un porter sa belle-mère bien, le même soir là, sa femme lui verse l'eau à la face des gifles. Sa femme vient chez lui, sa belle-mère vient chez lui ou son beau-père pour lui faire des problèmes. Chaque jour, c'est l'énergie. Chaque fois qu'il y a un mauvais comportement ou des mauvais conseils, c'est son père ou sa mère. Mais vous vous rendez compte que ce genre de personnes, même si c'est le père de ces derniers, quand ils viennent là-bas, c'est pour semer le trouble, l'inimitié entre mari et femme. Dans ce cas-là, il peut lui faire interdire. C'est à son absence. Il n'en va pas, et quand il est là, il est assis. Comme ça, au moins, quand ils veulent l'empoisonner avec leur mauvaise pensée, il peut contrecarrer. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une autre question l'autre jour, est-ce que la femme peut venir en présence de son mari? Ça, on va répondre à ça. On avait vu que quand c'est un jeune obligatoire, elle peut gêner, si le nombre de jours de ces jeunes obligatoires coïncide avec le nombre de jours restants de Charban, elle n'a pas besoin de sa permission. Si c'est Ramadan, elle n'a pas besoin de sa permission, elle gêne. Mais si c'est un jeune surérogatoire et son mari est présent, il doit d'abord demander l'avis de son mari avant de le si c'est un jeune de la vote où la femme a dit que non, il faut que je jeune, je joue au nom d'Allah, quel ou je dois gêner demain, les savants du léger, ils ont dit que si elle a encore le temps de pouvoir le faire, elle peut recruter, et si elle peut saisir son mari, parce que quelqu'un pense que l'obligation, les obligations ne se contredisent pas. Or, le fait d'être avec son mari ou de coucher avec son mari est une obligation, alors que le fait de gêner est quelque chose de surérogatoire, quand c'est un jeune surérogatoire. Voilà le peu de choses qu'on a voulu dire concernant les femmes de manière directe. On sait qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais maintenant, on va citer une cinquantaine de bonnes choses que la femme doit faire. Et après, on va peut-être détailler deux ou trois. Et on va laisser maintenant la place aux questions pour nous permettre d'entrer vraiment dans le sujet, parce qu'on s'est dit que les femmes ont des questions, elles ont des inquiétudes, alors les questions vont nous permettre de vraiment, vraiment parler du thème. Parmi les quelques conseils que nous donnons aux femmes, on a dit qu'on aura près de 50, sinon 60. Vous allez excuser la vitesse à laquelle je vais les citer. Celles qui vont noter pourront noter, celles qui ne vont pas pouvoir noter, peut-être qu'on aura la chance de revenir là-dessus. Ça m'amusait lorsqu'on se mettait à écrire cela tout à l'heure, mais il m'a semblé que c'est des choses banales, mais qui sont trop importantes. Premièrement, le sourire. Parmi les bons comportements, le sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sourire que tu fais en rencontrant ton frère, c'est une sadaqa. Mais vous-même, vous savez que parfois vous rentrez chez vous, vous avez envie de fuir parce que c'est la lionne que vous retrouvez toujours là-bas. Et vice versa. Donc le premier conseil, apprenez à sourire à vos maris et à garder le sourire. Deuxième conseil, surveillez vos silhouettes. Hein, entretenez-vous. Que quand il vous voit, vous êtes toujours attrayant, sinon il va aller quelque où? Ailleurs. La troisième des choses, ajoutez toujours avec finesse et sophisticité. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que réfléchissez d'abord sur l'impact que ce que vous allez dire peut avoir ou ce que vous allez agir. En quatre, ne négligez pas les petits cadeaux. Ne négligez pas les petits cadeaux que vous pouvez faire à ces derniers, hein, les femmes. Enfin, il faut prendre soin de vos maisons, de telle sorte que ce soit toujours bien ordonné et que ça sente bon. Enfin, appelle-le par ton surnom préféré. C'est pas moi qui vais vous donner les petits surnoms. Vous-même, vous savez qu'il y en a. Hein? Parfois, on passe là, on entend « dit », on entend « ami », on entend « un », on entend « chez ». Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il appelait Aïcha comment? Aïcha. Il ne terminait pas par amour. Hein? Parfois, utiliser les petits noms là, parce que je vous dis un secret entre nous. Souvent, ça tue le cœur. Quand vous dites que ça achète le cœur aux gens pour moi, quand vous dites qu'il est tellement content qu'il tend l'oreille pour pouvoir vous écoutez. Préparez les plats qu'il préfère. Hein? Il faut tenir en compte les plats qu'il préfère et la manière dont il préfère. Et vous savez de qui est venu l'exemple hier que parfois elle vient chez vous, elle s'en fout de vous. Elle prépare par exemple, chez eux on est habitué à manger, pimenté. Et quand vous lui dites que prépare que trop pimenté, vous dites que chez nous, on est habitué à manger comme ça. Mais tu n'es plus chez nous, chez vous. Tu es maintenant chez nous. Ça veut dire que tu dois faire comme on veut chez nous et non comme on faisait chez vous. Hein? Elle doit préparer les plats que son chien aime le plus. D'accord? Ah oui? Soyez pour vos époux des femmes qui se renouvellent. Hein? Ne vous négligez pas. À chaque fois, il doit avoir des nouvelles faces de vous. Ça, c'est important. Et je me rappelle un sexologue qui a dit une parole qui a attiré mon attention un jour. Il disait, vaudrait mieux toucher avec sa femme de mille manières différentes que de toucher avec mille femmes de la même manière. Hein? Ça veut dire que les femmes, il faut vous renouveler. Hein? Il faut souvent changer de temps en temps, mais dans le bon sens. En neuf, il faut citer à vos époux leurs qualités. Pour penser la carte du coup de la poignée, que toi tu me saignes quoi? Tu as déjà fait quoi dans ma vie? Je suis là, je suis très derrière toi. Tu es là, on voit rien, c'est même pas si tu étais déjà éliminé. Non. Il faut des gens d'entendre rappeler qu'il a des bonnes qualités que vous appréciez d'ailleurs. Ensuite, évitez de trop vous inquiéter. Souvent, vous vous inquiétez tellement au point, à force de vouloir trop bien faire, vous finissez par vous mettre un poids psychologique qui vous amène à rater ce que vous entretenez. Et évitez aussi de trop vous inquiéter pour vous, pour lui autant pour moi, parce que c'est ça qui vous amène souvent à aller vous poser des questions, à aller poser à d'autres femmes que mon mari, là, tu le vois souvent passer ici, toi-même. Si on te dit que lui, on le voit souvent passer avec les femmes, tu seras content. Donc, il ne faut pas poser des questions que lorsqu'on va vous donner des réponses, ça va vous déranger. Exprimez à votre époux l'amour que vous lui portez. Quelqu'un disait une fois, ou quelqu'un a dit une fois que son mari n'a jamais dit, que son mari ne lui a jamais dit, et le mari, une autre fois, dit que sa femme ne lui a jamais dit que je t'aime. Il ne faut pas gâcher en vous, ne gâchez pas vos moments de bonheur. En 13, les femmes, écoutez bien les 13, hein. Les femmes, écoutez bien les 13. Apprenez que dans les dictionnaires de toutes les langues, il y a un mot qu'on appelle « oui ». Vous comprenez bien? Le mot « mina », c'est un mot qui existe. Parce qu'il y a d'autres, comme on dit, c'est toujours « non ». Le « mina », elle ne peut jamais même te dire « oui » du premier coup. C'est toujours « non ». C'est comme si tout ce que tu vas amener quelqu'un fait, tu vas force à le faire. En 14e position, la 14e position, évitez beaucoup de critiques. En 15, il faut montrer l'affectionnité que vous avez ou montrer de l'affection à votre mari. En 16, que votre devise soit « Je ne goûterai le sommeil que si je te vois satisfait ». Hein? Je ne goûterai le sommeil que si je te vois satisfait. En 17e position, satisfait ses désirs. En 18e, il ne faut pas ôter le don en sa présence. En 19e, il faut souvent lui parler de sa personne. Ça peut les ramener. Hein? Et en 20e position, il faudrait que votre mari brille auprès de votre famille. En d'autres termes, il faut faire briller votre mari auprès de votre famille. Pourquoi que vous allez le peindre à noir, hein, au point où, auprès de votre famille, ça c'est le caca en pierre ou en os. Si bien qu'à la fin, quand il entre, on peut lui tracer à la face, ou bien chaque fois qu'il doit venir auprès de sa belle famille, on le bouge, voire même lui a tenu des coups de poing à l'extérieur. Parce qu'on a des beaux nerveux, hein. Ah oui, on a des beaux qui sont nerveux. En 22e position, il faut savoir que la reconnaissance ouvre le cœur. Parce que souvent, vous faites tout ce que vous avez fait. Les hommes se peinent, ce qu'il n'a pas, il vous donne le peu qu'il peut, mais à la fin, en guise de l'intimat, tu as déjà fait quoi pour moi? Depuis que j'étais avec toi, tu as déjà fait quoi de bien? Hé! Donc, même dernier mari là, c'est un bien fait. Et le prophète Allah, le Rasoul, il a dit quoi? La majorité de celles qui seront en enfer, c'est qu'elles ne reconnaissent pas les bienfaits du mariage. D'avoir un mari à Kourna al-Ashira. Allez demander à celle qui dort seule dans son lit ce que c'est qu'avoir quelqu'un à côté de soi et vous allez apprendre à apprécier ce que vous avez. Et vous savez que dans le Kounia,
Il faut toujours regarder la personne que vous dépassez pour apprécier ce que vous avez en main. Et dans la religion, regardez celui qui vous dépasse pour convoiter, pour vouloir tendre vers ce qu'il est. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Et vous allez vous rendre compte qu'avoir un mari, ce n'est pas chose facile. C'est pour ça que parfois, celles qui sont désespérées se transforment en âme fatale comme des femmes mariées, ce que vous appelez arracheuse de mari. En 23e position, il faut faire l'effort d'avoir un tempérament stable. Vous savez de quoi je parle. Parce que de vous à moi, vous avez des tempéraments qui changent comme la température du matin et du soir, c'est dit, qui changent comme les vies du monde. Il faut en 24e position éviter la froideur dans le comportement et être toujours chaleureux. Il faut lui faire comprendre qu'on a besoin de lui à la maison et qu'on est toujours content quand il rentre. Et il y en a qui sont spécialistes en refroidissement. Vous n'êtes pas là, vous faites un s'inquiète. Mais dès que vous entrez dans la maison, ce n'est pas la bienvenue qu'elle fait. Elle suce une de ses cannes. Vous partez, elle passe sa route. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit bienvenue? Il faut être chaleureux. En 25e position, les guimoins de jalousie, plus d'amour. Parce que la jalousie, là, fait souvent à la fin, elle ne donne même plus l'amour dont ils ont besoin. En 27e, comme on l'a dit, soit à son service. En 28e, il faut éviter d'être insistant entre eux. Hein? Il t'a dit qu'il ne veut pas te parler de ça, il faut laisser. Pas seulement aujourd'hui, tu ne trouves pas le sommeil dans cette maison si tu n'as pas fait ou si tu n'as pas dit ce que je veux. Non, ça c'est déjà le comportement qui produit souvent l'ambiance. En 29e, aide ton époux dans son travail quand c'est possible. En 30e position, ne sois pas rancunier et accepte tes excuses. Si c'est le domaine des rancunes, vous savez le faire, et vous savez que la chose là, c'est un plat qui se mange, comment? Chaud ou froid? Hein? Chaud ou froid? Froid! Parce que vous savez être l'engineer. Hein? Parfois, même quand il s'estime, vous n'acceptez pas les deux. Ah, il dit pas seulement pour plaire aux gens qui sont venus. Moi, je le connais, mais c'est aussi changé. Hein? Il faut accepter que j'excuse. En 31e position, n'étalez pas vos conflits conjugaux devant les enfants, comme on a dit tout à l'heure. En 32e position, il faut que la femme veille à la propriété des enfants et à leur éducation. Voilà, et parfois, vous voyez certains enfants. Je ne veux pas dire qu'ils vous donnent la nausée. Mais vous avez de la peine à croire qu'ils ont des parents qui sont encore vivants. Parce que vous les voyez une fois, deux fois, trois fois, vous êtes convaincus que non, ils sont des orphelins, sûrement ils restent dans une baraque, une cabane de l'État eux-mêmes, alors que l'un sait, c'est l'un n'est dit. Faut que vous fassiez les efforts. Si les hommes ne sont pas là, s'ils ne vous aident pas, que vous veillez à la propriété des enfants et leur éducation. En 3e position, sois économe. Faut économiser le cap. Hein? En 34e position, il faut être de bon augure pour son époux. En 35e, le chemin le plus court vers le cœur de ton époux. Il faut chercher ce quoi le chemin le plus court. Parce qu'il faut savoir que
trop bavardé là, ne t'amène pas toujours droit au chemin du cœur de ton époux. Il faut en troisième position honorer la famille de l'époux. En troisième position, honorer les invités de l'époux. En troisième position, l'amour et la spiritualité doivent être au cœur d'un foyer. L'amour est quoi? La spiritualité, la religion, les valeurs de Christ doivent être au cœur de votre foyer. En 39e, et c'est la chose la plus dure, il faut souvent ignorer les défauts de vos maris. Il faut quoi? Ignorer les défauts de vos... Est-ce que c'est facile? En 40e position, sachez que parfois le silence est d'or. Le silence est d'or. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que man kana yawmin billahi wa yawmin akhir fayakulu khayran aw bilakhna. Celui qui croit en Allah et un jour du jugement dernier, qui ouvre sa bouche pour dire ce qui est bien ou alors qu'il fait. Et dans un autre grand livre qui vient en poésie, il dit que Al-Ilmu Zainu wa Salamu Al-Ilmu Zainu wa Salamu Salamatu Fa'inna Tata Salata Kunni Vara Fa'inna Jintu Ala Kututi Marrakin. Voilà, Nadine, à la salam, si je ne suis pas trompé. Que parler est souvent bien, mais ce qui est une sécurité. Lorsque vous parlez, ne parlez pas seulement pour faire violence aux autres. Sachez que si vous vous êtes tu pour un problème une fois et que vous avez regretté une fois, lorsque vous parlez une fois pour un problème, vous pouvez regretter toute votre vie. Hein? Vous parlez seulement une fois pour un problème, vous regrettez toute votre vie. Mais vous vous taisez une fois, vous regrettez juste une fois pour vous être tu. C'est pour ça qu'on dit que sachez que parfois le silence est d'or. En 41e position, il ne faut pas priver votre mari de ses activités préférées. On dit activités préférées légales. On n'a pas dit illicite autant pour moi, pas activités préférées illicites. Et vous savez de quoi je parle. Il faut faire face au réalisme et vivre au réalisme. Il faut garder ses secrets en 45e, 46. Il ne faut pas lui donner les ordres directs. Parce qu'elle n'aime pas souvent les ordres directs. En 47e position, il faut être humble à l'égard de son époux. En 48e position, tes enfants ne sont pas uniquement à toi. Hein? C'est pour vous deux. Il faut, en 48e position, ou 49e, se débarrasser de l'idéal paternel. Vous savez de quoi je parle. Tu as arrivé chez lui, il t'a dit que non, ma nourriture, j'aimerais que ce soit comme ça, ne viens pas lui dire que mon père, c'était comme ça. C'est chez lui, ce n'est pas tout ton père. Il y a des choses qu'il n'aime pas, ne cherche pas, tu dois ramener ça à ton père. En 5e, en 50e position, il faut traiter parfaitement ses voisins, parce que ça aussi, ça honore le mari. En 52e, il faut accepter les responsabilités de bon cœur. Parce qu'il y en a qui n'acceptent que s'ils ont mal d'eux. En 53e, il ne faut pas insister pour qu'ils aient. chaque une fois, deux fois, trois fois, s'il ne vient pas, il faut les laisser, sinon ça peut tourner à autre chose. Enfin, quand ça vient, il faut accepter les imperfections de son épouse et les refuser. En 55e, il faut faire les efforts d'être la personne qui le correspond le mieux et on va revenir là-dessus parce qu'on va prendre 3 ou 4 de ces points et les détailler. En 55e ou 56e, il faut ménager la jalousie de ton époux. En 57e, il faut savoir qu'il y a un acte primordial dans la constitution d'un couple que vous allez trouver ensemble. Permettez-moi de revenir sur les 54e. Tu dois nécessairement accepter les imperfections de ton époux et les suivre pour que le couple puisse mieux marcher. Et tu dois savoir aussi que personne n'est exempt des imperfections. Tout le monde a des lacunes et des erreurs, même toi-même, ma soeur. Et cela exige que tu puisses bien agir face à de telles situations. Et la première des choses, c'est qu'il faut souvent fermer les yeux devant certaines situations. Et Allah dit, y a-t-il d'autres récompenses pour un bienfait qu'un autre bienfait, il l'a. Donc, la récompense d'un bienfait ne peut qu'être un bienfait, et tu verras que cet amour, cette affection va accroître en toi. Que veut dire accepter les imperfections dans le ménage? Si par exemple, ton époux est quelqu'un de colérieux, il ne faut pas le lui rappeler tout le temps et lui faire des reproches. Accepte donc comme il est malgré ses défauts et agis à son égard dans cet esprit. Cependant, cela ne doit pas t'empêcher de le reformer, lui faire des remarques. Mais parce que les qualités inhérentes à sa nature vont changer, mais il faut du temps. Parce qu'il y en a qui changent, mais avec du temps. Le 57e, on a dit qu'il faut être la personne qui correspond le mieux à ton époux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu veux réussir ta vie de couple et jouir d'une grande estime auprès de ton époux, alors considère ce que ton époux veut de toi et veille à être la personne qui lui convient. Ce n'est pas que ton époux te dit que voici ce qu'il faut faire, tu mets ça de côté. Il est même rentré, quand tu as la chance d'avoir un époux qui est pieux, il est rentré, il a écouté ce qu'on a dit à la mosquée, il te rapporte ça pour que tu changes, si toi à cette image, à l'image de cette bonne chose, et ce qui est recommandé, tu fais la troisième guerre mondiale. Parce que beaucoup de sources de problèmes résident dans le fait que certaines femmes ont souvent une vision à sens unique. Elles veulent toujours que leur époux, leur conjoint fasse ce qui leur est propre, sans pour autant faire des introspections à elles-mêmes. Et chaque fois, elles évitent de se poser la question, si je l'épouse idéal, or, elles savent que le mariage exige des deux qu'ils veillent l'un et l'autre à pouvoir être ce que l'autre veut ou alors ce qui convient le plus à l'autre. Et elle doit savoir que son mari ne peut pas être ce qu'elle veut sans qu'elle ne fasse les efforts d'être ce que lui il veut. Et généralement on conseille aux femmes de prendre des initiatives dans ce parce qu'elles s'y connaissent souvent de mieux, sauf si vous doutez, hein? Mais elles s'y connaissent le mieux. En 56e, on a demandé qu'elle ménage sa jalousie. La jalousie de qui? Pas d'elle, mais il y a d'autres qui sont vraiment jaloux, hein? Et c'est des champions du monde de toute catégorie. Comment est-ce que la femme va ménager cela? Elle doit savoir que la jalousie est une preuve d'amour tant qu'elle ne dépasse pas les limites du raisonnable. Mais elle peut dégénérer en un sentiment qui va rudoyer le foyer et qui peut entraîner beaucoup de conflits. Les conflits que vous appelez généralement quoi? Celles de ménage. Les conflits qu'on appelle généralement les scènes de ménage. Et quand ça va loin, ça tue même la honte. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils commencent les scènes de ménage, on s'en fout. Au bas, en haut, dans la voiture, n'importe où, parce qu'ils n'ont pas pu contrôler ces degrés de jalousie. Et après, ça peut amener à la sauvagerie. Que les femmes dont le mari est jaloux prennent exemple sur Asma, la fille de qui? Asma ou la fille de qui? La fille de Abu Bakr. Hein? Lorsque son épouse Zubair al-Awwam, qui était très jaloux, elle dit que quand Zubair m'épousa, il ne possédait ni argent, ni esclave, hormis un chameau qui avait pour tâche de tirer l'eau du puits et un cheval. Je donnais à manger au cheval, je puisais et transportais l'eau du puits, je cousais les seaux déchirés et je pétrissais la farine pour en faire de la pâte. Comme je ne savais pas comment faire le pain, c'était des voisines à moi parmi les Ansars, c'est-à-dire les habitants de Médine, qui s'occupaient de cela. Elles étaient vraiment des femmes honorables. Je m'occupais aussi de transporter les noyaux des lâches sur ma tête depuis la terre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'était le champ que le prophète avait donné à Zubair, qui était sensiblement, selon les historiens, 3 km de là. Donc il partait porter ça à 3 km sur sa tête pour revenir. Un jour, quand j'ai retourné, c'était trop, ça faisait trop. C'est ainsi que le prophète a envoyé quelqu'un aller l'aider. Le chameau est venu, le chameau a baissé les genoux pour qu'elle monte derrière. Mais Asma bint Abu Bakr, elle a refusé de monter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée que Zubair c'est quelqu'un de très jaloux. Il va la voir derrière le chameau et c'est un homme qui voulait l'aider parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle a refusé pourquoi? Parce qu'elle savait que Zubair c'était quelqu'un de très jaloux. Et elle a continué à porter les noyaux jusqu'au jour où, c'est-à-dire les dates et les noyaux des dates ou des chevaux, jusqu'au jour où son père Abu Bakr lui a envoyé un esclave pour entretenir les chevaux à sa place et pour faire certains travaux. Donc, remarquez ici là qu'elle a préféré aller à pied malgré la torture, mais éviter la jalousie de qui? De son mari, il s'appelait comment? Hein? Il s'appelle comment? Zubair ibn Awwam. Est-ce qu'elle s'est limitée là? Après, elle a quand même expliqué à Zubair ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Zubair a dit? Il fallait monter, il fallait amener. Moi, je n'ai pas le problème avec cela. Hein? Il a dit qu'il fallait monter. Mais le fait qu'elle était sensible et qu'elle ait raconté cela à son mari, ça l'a rendu plus valeureux auprès de son mari. Voilà un exemple de protection de la jalousie de son mari. Et pour terminer, il faudrait qu'on parle d'un acte primordial dans la constitution du couple. Sachez que le couple est comme une voûte, et toute voûte a une clé. C'est-à-dire toute maison, toute chose a une clé. Et les sources du bonheur conjugal ça passe par toi. Qui peut me dire? Ça passe par quoi? Non, ce n'est pas ça la clé. Je dis la clé entre l'homme et la femme, c'est quoi? Ce n'est pas ça la clé. Hein? Je n'entends toujours pas. La confiance, le dialogue et tout le reste, c'est le sexe. Ah oui, contrairement à ce que vous pensez. C'est pour ça que quelqu'un écrit, je vois le docteur Ami Tony disait, la disharmonie sexuelle est derrière l'échec du mariage. Tous les autres problèmes conjugaux peuvent être surmontés par les époux si l'harmonie sexuelle s'établit entre eux. Hein? Tous les autres problèmes là, on peut avoir des problèmes. On se bagarre, mais quand il y a cette harmonie sexuelle, après là, on trouve toujours solution là-bas. Est-ce que c'est faux? Qui me dit que c'est faux? Hein? Les docteurs ont passé beaucoup d'années de leur vie à étudier cela et ils ont prouvé que c'est même ça la clé. Parce que beaucoup de problèmes peuvent se résoudre là-bas. Ils ont aussi trouvé que quand là-bas il y a du fonctionnement, vous n'êtes plus un homme, les gars. Vous là, non, vous n'êtes plus des hommes. Parce que ça ne fonctionne plus. Vous vous amusez, un bon Dieu va vous demander que mes études, si je vous couronne votre maison, tout le monde va savoir que vous là, vous n'êtes plus un homme. Hein? Ça veut dire que ça a un grand impact. Qui dit non? Quelqu'un a un point de vue contraire à cela? Quelqu'un me disait une fois que c'est regrettable au 20e siècle, au 21e siècle, malgré toutes les technologies, on n'a pas encore trouvé une technologie propre à résoudre ce genre de problème. Alors que depuis 14 siècles, nous on a la solution. Parce qu'on a compris que la clé de la voûte de ce mariage, ça passe par l'harmonie sexuelle. Lorsque ça passe là-bas, ça va passer ailleurs. Quand il y aura n'importe quel problème, quand on va aller là-bas, on va trouver solution au problème. Et ça, c'est pas moi qui dis. C'est certaines personnes qui disent. Et il y a une personne qui a dit que les quatre choses qui créent souvent les mariages, qui créent la fin de certains mariages, ils ont dit qu'il y a d'abord la disharmonie sexuelle qu'on a citée tout à l'heure. Ils ont dit qu'il y a l'opposition des idées et des convictions. Ils ont dit qu'il y a le problème financier. Il y a les pathologies psychiques, affectives ou physiques. Donc voilà les quatre grandes choses qui détruisent les mariages. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts de s'en écarter. C'est quoi l'opposition des idées et des conditions? Vous savez que, comme certaines personnes disaient, pour vivre ensemble, ce n'est pas le fait de se regarder en face du système, mais c'est de converger tous vers un même idéal. Ça veut dire que vous regardez tous ensemble vers une même direction. Ce n'est pas vous opposer et l'un dit à l'autre le thème. Non, ça ne suffit pas. Il faudrait que vous ayez les mêmes objectifs. Il faudrait que vous vouliez la même chose. Les problèmes financiers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute que ça fait partie des choses qui finissent le mariage? Les problèmes financiers finissent le mariage. Celui qui ne sait pas ça, qui sait ça aujourd'hui? Les pathologies psychiques, c'est l'ensemble des problèmes qu'on retrouve dans le comportement des uns et des autres, qui n'encourage pas le bon comportement, qui n'encourage pas la suivi
de Maria este nombreux. Ça peut être psychique, affectif ou physique. Elle est affective lorsque elle ne se sent pas suffisamment aimée ou il ne se sent pas suffisamment aimé et l'autre n'a pas le temps de lui donner cette affection. C'est pour ça que le prophète Allah alayhi wa sallam, parmi les conditions d'épouser une femme, on épouse une femme affectueuse. D'accord? Et être aussi être physique parce que vous savez que il y a certaines choses naturelles qu'on appelle des attraits qui sous-tendent quelque chose qu'on appelle l'attirance qui aiguise l'appétit qui mène à d'autres choses. Tant qu'il n'y a pas ça entre vous, vous pouvez être là, ni là, avec votre conjoint, c'est comme si c'est votre soeur, votre soeur qui est couché à côté de vous. Vous n'avez aucune attirance et ça aussi, ça peut entraîner ce genre de choses. Et comme on n'est pas souvent assez courageux pour dire que tu ne m'attires pas, pour dire que tu ne corresponds pas, souvent on se meurt et après ça explose, alors qu'on aurait pu être dirigé, c'est bien en fait que non. On n'est pas de même typologie et puis c'est séparé. Inch'Allah, on va arrêter ici pour les feux de propos. C'est bien, on va faire la dame de la prière. Et je ne sais pas, c'est mieux qu'on entre dans la phase question-réponse après la prière, non? Hein, c'est mieux, non? Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui t'attendent. Subhanallah, wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilayk.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والعاقبة للمتقين ولا رضوان إلا على الظالمين. La première question dit, si mes parents me donnent en concubinage chez un homme sans doute, disant qu'il faut voir si je peux procréer ou accoucher, est-ce un mariage valide? Non, ce n'est pas un mariage valide, vous n'êtes même pas marié. Quelle est la situation des parents qui soutiennent le chef pour les filles? En islam, c'est la fille qui fixe sa dot et non les parents. Le voile n'est-il pas une chose au modèle de l'Antiquité? Ce n'est ni une chose ni un modèle de l'Antiquité. Et si modèle, c'est ça, on va dire que c'est la modèle divine. C'est la modèle divine, si vous me permettez les tiennes. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire Muhammad, dit à tes épouses et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile, car cela est mieux pour permettre de les reconnaître et cela est une protection. Est-ce que vous connaissez un autre, une mode qui dépasse l'autre là? Venez avec. Même la raison, la science refuse ça. Ça refuse au contraire. Demandez ce que les scientifiques ont trouvé chez nous. Moi, je vous ai parlé de mon expérience personnelle, je vais répéter ça ici aujourd'hui. Une fois que je suis allé au marché Colonel, j'ai vu comment est-ce que ça se passait. Il y a une dame de 35 ans, 40 ans qui avait, vous appelez ça quoi, des jupes en peau noire. Elle avait une cinglée. Il suffisait qu'elle se tourne pour que le sein ne rose pas dehors. Elle s'est fait tripoter par les vendeurs à la forêt qui l'ont même insultée. Je ne peux même pas supporter la violence des mots pour les répéter ici. Ça n'a même pas fait 5 à 6 minutes. Il y a une petite fille d'environ 15 ans, 16 ans. Je ne lui donne pas 18 ans. Qui vient voiler? Le même monsieur qui venait de tripoter cette dame de 35 ans,
et se couvrir du haja, tout ce que vous voulez, quelque chose que vous vous tirez avec toute la révérence ici. Alors je me suis dit, s'il fallait utiliser la raison que les autres avant, on devait respecter qui des dieux, celle qui a 35 ans, 40 ans ou celle qui a 15 ans, 35 ans, 40 ans. Mais voilà qu'à cause de ton habillement, elle s'est fait traiter de prostituée et elle s'est fait tripoter. C'est là où j'ai compris que la parole d'Allah, entre autres, est vérité. Hein? Je vous ai raconté l'émission qu'il y a eu entre un savant et un journaliste, où le journaliste disait que ça c'est une méthode de l'antiquité, mode de l'antiquité, c'est dépassé, il faut arriver à des justes valeurs et tout le reste. Il a laissé couler. À la fin de l'émission, il a dit chez nous les Arabes, on a pour habitude d'offrir des bonbons. Est-ce que je peux vous offrir des bonbons? Il a sorti deux bonbons. Un bonbon qui était dans son emballage et un autre qui était venu de son emballage. Il les a tendus. Vous croyez que le journaliste a choisi quel bonbon? Le bonbon qui était emballé. Et le savant lui dit, mais j'ai tendu deux bonbons. Je voulais vous faciliter le travail. Pourquoi vous avez choisi l'autre? Il dit que parce que ça ne respecte pas les règles hygiéniques. Ce qui est dans la faute, ce n'est pas emballé, ça a pu être infesté, ça a pu, ça a pu. Il dit aussi que les règles hygiéniques divines, c'est que la France. Parce que quand elle ne se couvre pas, elle est infestée par les microbes de mauvaises vies sur la légale. Et il dit, si je vous disais que ça c'est la vie que certains n'ont pas. Et si il dit aux journalistes que, en fait, j'ai des actions pour vous faciliter, le sujet dit, est-ce qu'il n'en demeure pas moins que le bonbon aurait pu être infecté? C'est la même chose que si vous vous déshabillez comme vous vous déshabillez pour montrer vos attraits, vos atouts, votre féminité, vous n'en demeurez pas moins infecté. Et par conséquent, le voile, c'est le mode, la mode divine. C'est une injonction d'Allah. Et c'est quelque chose qui va aller en tout temps. Je vous racontais la fois dernière les nouvelles études qui paraissent, qui disaient que la femme qui se voile à la peau plus soyeuse et qu'elle est moins exposée au cancer de la peau, ça c'est une étude qui a été faite récemment en France. Et ils ont besoin des études pour que ça. Nous, on a le Coran depuis 14 000 années. Et 300 et poussières, et 30 et quelque chose, nous on se limite après là, s'il passait l'expérience, nous on continue avec l'amour de divine. Donc ce n'est pas de l'antiquité, il dit pas de votre propre intérêt. Allez demander à ceux qui ont été touchés, c'est la plupart du temps qu'on les a traités, quand les dîmes sont entrés, demandez-les ce qu'il a dit ou ce qu'on leur a dit, vous allez comprendre qu'il est de votre intérêt de vous couvrir. Parce que si vous êtes une créature, il y a un créateur. Et le mode d'emploi ne peut être donné que par le créateur et il ne peut descendre mieux que quiconque. Quand vous voulez utiliser votre petit chèque, ça va vous rattraper. La prochaine, wallahu ta'ala, la prochaine question dit, nous voulons que vous expliquiez la différence entre aider sa femme par travail ou par obligation. Est-ce que le mariage empêche la femme d'aller à l'école? Je dis que non, le mariage n'empêche pas la femme d'aller à l'école, la femme d'aller à l'école. Je me suis marié et ça en face. Hein? Ça empêche quoi? Ça n'a rien empêché. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours étudiants. Elle est étudiante. On sait, j'ai 4 enfants. Ça ne veut quoi? Ça empêche-tu d'aller à l'école? Elle ou moi? Hein? Personne dont l'école n'empêche pas. Quand on a parlé aider sa femme, c'est qu'on était en train de dire que si ça devient une obligation, c'est le contraire de la religion originaire. Parce que chacun a des tâches bien définies. Il va du rationnement de son éducation que de pouvoir aider son épouse. Et le prophète dit que khayrukum khayru li ahlihi wa ana khayrun minkum aw kama qala ana khayrun li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers son épouse et moi je me comporte le mieux envers mes épouses. Hein? Ça veut dire que ça fait partie du raffinement de l'éducation que vous puissiez leur donner de coup de main. Mais quand ça devient une obligation au point où vous avez des comptes à rendre, c'est ça qui est interdit. Au point où vous êtes venu vous gronder de n'avoir pas lavé les assiettes. C'est normal ça. Hein? Ou est-ce bien vous gronder de n'avoir pas balayé la maison? C'est impossible. Mais quand vous rentrez maintenant, c'est sale. Vous voyez qu'elle est fatiguée, elle n'a pas pu faire telle, et vous lui donnez un coup de main, c'est pas beau. Hein? C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. J'espère que la personne a compris la différence. Il dit, quel est le comportement de l'homme dans un foyer quand vous êtes deux et que l'une d'entre vous passe la majeure partie de son temps à raconter ce qui se passe entre l'une d'elles aux voisines dans votre foyer? J'ai pas bien compris la question, mais j'ai comme impression que c'est un foyer polygamique, c'est ça, et que l'une des deux épouses passe le temps à raconter ce qui se passe à un autre. On dit Wallah Moussa'an, ce genre de comportement est à décider. En fait, elle ne devrait pas poser ce genre d'actes. Celle qui pose ce genre d'actes doit savoir que si ce qu'elle dit est vrai, et que sa épouse ne voudrait même pas que ça sorte, on appelle ça la médisance. Et si ce qu'elle dit est faux, on appelle ça la calomnie. Et les deux sont condamnés par le Saint-Coran, parce qu'Allah dit que voudrez-vous manger la chair de votre frère mort, même pas vivant. Vous savez, parfois vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un, mais quand vous dites qu'il est mort, vous l'avez quand même un peu de pitié. Hein? Mais on dit que celui qui fait chair comme celui qui mange la chair de son frère mort. Ça, c'est interdit. Mais de l'autre côté, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est de l'accepter. Il faut patienter. Parce que ce qu'elle fait là, le Yom Akiyama, Allah va vous faire justice. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé la question à ses compagnons. Connaissez-vous celui qui a fait faillite? Car il faut nous montrer. Ils ont apporté des réponses, des réponses, des réponses. Il a dit que non. C'est celui qui aura prié, gêné, fait les bonnes choses et tout. Il arrive aux jours de jugement dernier. Il a insulté qu'elle, il s'est mal comporté envers elle. On commence à prendre les mauvais actes de cela, l'équivalent de ce mauvais acte. On prend l'équivalent bien de cela. On lui donne le bien ici. Et celui-là prend son mal jusqu'à ce qu'on fasse justice à tout ce qu'il a insulté, ou bien il a été injuste envers. Après, il ne lui reste plus rien, il ne lui reste plus rien, et il prend sa route pour l'enfer. Il a aidé, il a tout bien fait, mais il a passé le temps à insulter, c'est la mal se comportant avec la fête, et ça a été la cause de son admission en enfer. Donc il faut approcher ce genre de service, comprendre que c'est quelqu'un dangereux. Déjà, si c'est vous qui êtes victime, vous patientez. Inna Allah ma sabirin, Allah avec les patients, mais il faut faire que peut-être votre mari là nous dit que ce que tu fais n'est pas bien, voilà, voilà, ça va te causer ses visites. Et Inch'Allah, la personne pourra changer. Wallahu ta'ala. Lorsqu'une femme complète son jeûne de Ramadan, ce jeûne est-il considéré comme surérogatoire pour cette dernière? Accepter les imperfections de son époux, c'est bien beau, mais comment l'amener à changer? Lorsqu'une femme complète son jeûne de Ramadan, je l'ai considéré obligatoire. Parce qu'elle est en train de prier, c'était obligatoire. Si ce n'était pas obligatoire, pourquoi est-ce qu'elle devrait déjeuner? C'est obligatoire. Maintenant, la différence est que, ils ont dit que, on peut voir par rapport à la période. Exemple, elle n'a pas donné 5 jours, et elle a 11 mois devant elle, pour ne pas dire 12 mois. Elle veut le faire demain, il dit que, laisse un peu même la, je suis la semaine prochaine ou bien le mois prochain, demain là, on se retrouve. Demain là, il peut arriver que j'ai envie de toi et tout le reste, là, on comprend. Sauf le cas où il lui restait 5 jours et on est le 24 Shaaban. Donc, ça veut dire que pour l'autre, Ramadan, il restait 5 jours, elle ne doit même plus demander, elle vient seulement. C'est ça qu'on disait. Accepter les imperfections, c'est toujours beau. Celui qui l'accepte, ça va toujours rester beau. Mais amener quelqu'un à faire son assemblée, ça a divers méthodes. On lui a pas une méthode de choc que vous allez appliquer à tout son pour qu'il puisse changer. Mais on dit plutôt que ça dépend de quelle imperfection. Quand c'est une imperfection qui touche directement la religion et qui ne vient pas annuler son appartenance et sa foi, là c'est une chose. Quand c'est un simple type, un mauvais caractère, tout le reste, ça c'est autre chose. Et c'est selon ce caractère qu'on va pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut l'amener à changer. Mais il y a une règle générale. Il faut exhorter ce dernier par les bonnes paroles. Hein? Ça ne sert à rien de l'insulter. Il faut lui rappeler qu'il vaut mieux que ça. Il est au-dessus de cela. Il faut lui rappeler de craindre la loi et lui présenter certains de ses bons comportements et des preuves que cela interdit. Inch'Allah, il pourra changer. Wallahu ta'ala. Lorsqu'un homme ne nourrit pas sa femme, qu'en est-il de ses jardins? Il est obligatoire à l'homme de nourrir sa femme lorsqu'il ne se nourrit pas. Lorsqu'il se nourrit autant pour moi. Et s'il ne le fait pas, il a bafoué une des lois fondamentales de la femme. Normalement, la femme doit l'amener chez les juges ou chez l'autorité pour qu'il revienne de son hérésie. Et s'il ne revient pas, c'est le juge qui saura ce qu'il va faire. S'il estime qu'il n'est pas amoureux au mariage, il va annuler son mariage. S'il estime qu'il va demander une fête, ou bien si la femme, s'il est la décision des mains de la femme et qu'elle décide de demander, le divorce, on va faire le choix. Donc c'est à lui que ça va, la sentence va devenir. Mon Dieu a cet homme de craindre Allah, c'est sa femme pourquoi? Juste pour que tu puisses jouir d'elle et c'est tout? Non! Tu dois t'occuper d'elle, tu dois la nourrir lorsque tu te nourris, te vêtir lorsque tu te vêtis. Wallahu ta'ala. Si un homme, excusez-moi les termes, aime faire l'amour tous les jours et que la femme ne partage pas son avis, que doit-elle faire? Elle doit supporter. Dans l'amour, il y a deux positions. Il y a la position où on cultive et la position où on récolte. Et si elle estime que les autres décident de témoigner, elle le conseille de prendre une deuxième femme. Comme ça, quand elle est fatiguée, il va se satisfaire. Et la deuxième, wallahu ta'ala. Est-ce qu'une femme musulmane peut choisir elle-même son mari? Si oui, et si sa famille refuse ce dernier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez vu un endroit où on a dit en islam qu'elle n'a pas le droit de choisir? Parce que votre question, c'est comme si elle n'a pas le droit de choisir. Hein? Alors qu'il y a beaucoup de hadiths qui disent que Al-Bitra, Al-Akhayyi, Kutsa'adam, Al-Bitra, Kutsa'adam, c'est celle qui connaît déjà l'homme, on lui demande son consentement. Et celle qui est vieille, on lui demande de nous donner l'ordre. Ça veut dire que parmi les conditions, il y a le fait qu'elle agrée. C'est elle qui choisit si elle veut. Les autres sont seulement canevas. Quand il vient, il ne peut pas aller la poster en route, il ne peut pas aller la poster dans un bosquet et tout le reste. Il passe plutôt par eux, on lui donne la permission de poser. Où on lui pose le problème, ça elle l'accepter, ensuite elle donne l'autorisation à son tuteur légal ou à son père, et c'est lui qui continue après qu'elle ait accepté. Si elle vient maintenant avec un homme, hein, et que ses parents n'acceptent pas, il faut qu'on se pose la question. Ils n'ont pas accepté, pourquoi? Si c'est un voyou, nous-mêmes on dit qu'on est d'accord, s'ils n'acceptent pas. Si tu peux avoir vu que celui-là, il ne remplit pas les critères, hein, pour pouvoir vous prendre en charge, alors dans ce cas, ils doivent refuser pour vous protéger. Hein? Sinon, vous allez tomber entre les mains d'un brigand et demain, votre vie ne ressemble à rien et vous n'aurez que vos yeux pour regretter, et pour pleurer et votre cœur pour regretter. Maintenant, quels sont les critères de choix d'un mari? On vous a dit l'autre jour qu'il y a deux critères. Le premier critère, c'est la piété, et le deuxième critère, c'est le bon comportement. Si vous amenez quelqu'un qui est pieux et qui se comporte bien, dans ce cas, ça devient facile. Vous allez voir le juge, vous dites au juge que tel est venu pour m'épouser, et moi je suis d'accord, c'est lui que je veux, et mes parents ont refusé, et ils ne m'ont pas donné de raison islamiquement pour le dire. C'est maintenant au juge de voir. Il va appeler le père, il va dire oui, il y a quelqu'un tel. Après, en fait, il se comporte bien et il est pieux. Pourquoi vous avez refusé de lui donner votre vie en mariage? Vous ne savez pas qu'Allah dit que si un Dieu dont vous avez fait le comportement vient demander votre vie en mariage, donnez-lui votre vie en mariage, sinon Allah va dépendre des autres qu'il a fait. Et maintenant, on écoute ce qu'il va dire. S'il n'a pas de raison plausible, le juge, je dis bien le juge, peut forcer le père à célébrer le mariage. Et s'il ne le fait pas, le juge prend ses responsabilités et peut célébrer le mariage. Wallahu ta'ala a'lam. Si une femme qui n'est pas mariée, elle doit faire quoi pour être pardonnée envers Allah? Est-ce qu'on a dit que le mariage est la seule condition de pardon? Si elle n'est pas mariée, elle doit observer sa religion. Allah dit qu'il faut ne lui associer rien, elle n'associe pas. Allah dit qu'elle doit bien s'habiller, sa vie bien, elle doit rester chaste, elle rester chaste, elle fait ses prières, elle observe les obligations de la religion. Et Inch'Allah, elle respecte ses parents et puis elle sera pardonnée. Et la preuve, Allah aussi dit que votre paradis est sous les pieds de vos mamans. Elle encore sa mère, non? Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois son père. On n'a pas dit que le mari est le saumon. Wallah, ta'ala. La belle-mère peut qu'elle pas de contrôle supérieur de sa fille. Une fille mariée est obligée de faire la cuisine pour le mari de sa mère. Le mari de ma belle-mère peut-il donner des ordres de cuisine à ma femme? Ah, je sortais avec des questions. Tout ça, je n'ai pas compris la première. Je ne sais pas si la belle-mère peut-elle. Quoi, le contrôle supérieur du foyer de sa fille? En aucun cas. C'est quand on dit prendre le contrôle du foyer, ou alors influencer certaines décisions. Si tu as influencé certaines décisions, on dit que ça t'a à ton foyer, que la belle-mère est chez elle et qu'elle le chasse aussi dans son foyer. Maintenant, si elle constate qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, elle peut maintenant appeler son fils ou sa fille et dire que ça aurait pu être fait comme ça, comme ça, comme ça. Elle donne des conseils. D'accord? Dans ce sens, elle peut donner des conseils, mais sinon, il faudrait qu'elle lui dise définitivement le cours des autres et aide normalement, aide que au niveau des conseils. Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce que la fille mariée est obligée de faire la cuisine pour le mari de sa mère? Elle est mariée, mais elle est obligée de faire la cuisine pour le mari de sa mère. Je pensais qu'elle allait dire le mari, la mère de son mari. Et là encore, je comprends. La mère de son mari, on avait dit que quand la sa'an dans ce qu'on appelle birru walidayn, la gratitude envers et la bonté envers les parents, respecter les parents, la belle famille, ça c'est quelque chose de recommandable. Hein? Mais maintenant, quand elle est obligée, alors qu'elle a son foyer, il reste dans la même maison. Parce que c'est le mari de sa mère, on suppose que ce n'est pas son père. Et obligé, non, elle est obligée de préparer pour son mari. Point clair. Le mari de ma belle-mère, la personne qui a le problème. Le mari de ma belle-mère peut-il donner les ordres de cuisine à ma femme? C'est sensiblement la même question qu'on a changé. S'il ne donne pas les ordres, s'il est dans le problème, dans les situations, il peut venir vous demander simplement de l'aider, hein, de l'aider et dire à votre femme de lui préparer les bons mets, surtout si elle connaît bien préparé. C'est pas ça? Quelqu'un autre chose? Lorsque vous reprochez une femme et qu'elle ne comprend pas, qu'est-ce que vous faites? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَضْرِبُوهُنَّ. Celles qui deviennent indociles, si vous me permettez les termes, si vous manquez de respect sauvagement, il faut la corriger. On vous a dit avec quoi la corrige. Mais avant ça, corriger, ce n'est pas, c'est la solution dernière. Ce n'est pas une solution première. Quand vous avez une femme, vous commencez d'abord par l'éduquer. C'est pour ça qu'on leur disait de savoir ce que vous aimez, ce que vous détestez. Vous aussi, c'est un droit que vous puissiez l'éduquer et vous lui montrer que voici ce que j'aime, voici ce que je déteste pour qu'elle ne tombe pas à l'intérieur et qu'ici puisse avoir harmonie dans le couple. Donc vous l'éduquez, vous utilisez des méthodes adéquates. Peut-être quelqu'un qui peut lui donner un conseil, peut-être ses parents, peut-être des gens qu'elle peut bien écouter, et puis vous restez patient, parce qu'il faudrait vraiment être patient. Wallahu ta'ala. Allahu Akbar. Je l'ai dit entièrement. Que fait une femme qui n'entretient que les rapports quand elle va avec son mari? Que fait de celle-là lorsque vous découvrez une autre femme, elle décide d'arrêter l'amour, hein, des relations sexuelles? Nous devons être doux envers nos femmes. Et quand celle-ci s'oppose, lorsque nous voulons prendre une deuxième femme, qu'allons nous faire? On doit dire à la femme que quand son mari a besoin d'elle, il n'y a pas de parole. Tout comme l'homme, quand sa femme a besoin de lui, il doit la satisfaire. Parce que s'il ne la satisfait pas, elle va aller dehors. Hein? Est-ce qu'il est permis d'avoir des relations extra-conjugales? Ce n'est Dieu, ça ce n'est même pas une question qui s'applique à l'autre. Maintenant, les femmes doivent savoir que si l'homme l'appelle, elle refuse sans raison valable, telle que la maladie, même quand c'est une raison valable, elle utilise de bonnes méthodes pour lui faire comprendre qu'il faut je suis fatigué, je suis de quelle patiente, voilà, voilà. Allah avec les patients, c'est juste une nuit et tout le reste, ne m'en veut pas. Pas que non, je ne veux pas. ça ne va pas être comme le dit l'autre jour là, et là c'est l'indien là, mettez des collants ou les jeans, mettez des jeans comme barrière, non. Et il dit tout simplement, Inch'Allah, il va comprendre. Et elle doit savoir que si elle se refuse à son mari, et qu'ils doivent partir d'elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Si elle refuse ça, ça la regarde. Elle se fait maudire, ça peut dire ça, c'est son problème. Allah, elle doit cesser de faire ça. Elle doit cesser de faire ça. Elle doit venir à son mari quand il veut parce que ça c'est là une des bases fondamentales du mariage. Il dit que lorsque votre mari vous appelle, vous êtes au fourneau en train de faire du pain, venez à lui. Et il y a un savant qui disait que si vous pouvez, vous pouvez, pendant que vous contrôlez votre pain et qu'il se satisfait de ce le pain. Ça, ce n'est pas des choses avec lesquelles on blague. On dit qu'il vous appelle à lui et que vous êtes sur votre montée, venez à lui, même si c'est sur la montée. On a dit que ça c'est un droit fondamental. On n'a pas dit que c'est un droit que vous allez négocier. Et c'est dit vrai ça. Parce que souvent on a tendance à croire que quand on a des désirs, il y a un homme qui se dit que non, je veux. Non, c'est les deux. Si elle veut en venir, vous allez vous devez la servir. Si vous voulez. Vous ne faites pas, c'est pour qu'elle aille voir le voisin, ça c'est interdit. Donc il faut faire attention face à ce genre de choses. Quand vous épousez une femme et que la première refuse d'avoir des relations avec vous, ça c'est un péché. Elle doit savoir qu'on doit se dire la vérité. Vous connaissez un homme normal. Donc, une femme le petit. Montrez-moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que vous connaissez un homme normal, donc une femme petite? Pardon, comment montrer? On a cette natalité-là dans un marché. Comme ça, quand on aura des choses, on va se faire avec un marché. Il n'y en a pas. Ne vous trompez pas. Un homme avec toutes ces qualités-là, qu'on connaît un vrai homme, 2, 3, 4. Ou un Christoman là qui a dit, maintenant quand il a la peur, il va se limiter à une parce qu'il ne peut pas être droit. Et être droit, là on vous a dit que ça s'applique à deux choses. Le prisma, la division des nids, et le arbre de défense également celle tout. Donc ce n'est pas dans le cœur. Faut cesser les mensonges que les gens racontent chaque jour. Vous écrivez pour les amis, après il a deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, sixième bureau. Ça c'est du folklore. Sauf s'il a un problème, très physiquement il sait que non, je ne peux pas tenir deux. Mais lui il n'est plus normal. Mais un homme normal dans tous ces temps, qui ne vous manque pas toujours le moment. Je vois les hommes, mais les gars, vous ouvrez les yeux. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Sauf celui qui a un problème. Vous allez voir ici, même le plus sérieux, quand un homme vous apporte sa main, s'il y a deux enfants qui viennent là, vous guettez vous-même, vous dites que la tête des enfants qui l'a. C'est trop beau pour être, si c'est pas son neveu. Parfois même, c'est son frère qui vient. Vous croyez que c'est le fils du frère alors que c'est le fils de vous dire ça. Il n'a pas eu ça. Partout, parfois c'est quand il meurt. Parfois un bon jour, quand il est raconté puis là-bas, vous êtes chez vous, vous voulez ouvrir la porte, vous voyez que mon Dieu, on jette des enfants, les choses. C'est là où vous dites, les gens qui sont mauvais, alors que vous-même vous avez mis la pression. Il ne pouvait pas vous dire les défaits. Et je profite pour donner un message aux hommes. Soyez courageux. Elle ne veut pas. Craignez Allah, ne craignez pas vos femmes. Craignez Allah dans vos femmes en respectant vos droits et limitez vous là. Et pour le reste, si vous ne vous suffisez pas d'une, c'est simple, prenez une deuxième. Mais vous négociez d'abord. Vous la placez, vous lui donnez ce dont elle a besoin. Chi ha preso e ne fa premessa a non tutti chi ciò fa pelare con lui, Wallahu ta'ala. Noi dobbiamo essere due a ver non fa, e quando è il sito può, loro sono quello che prendono in direzione, quando parlano di te, tu premi, on a già detto, ma già la buona e buona maniera. Perché si campa, se siete di qua, se siete qua, 60 autres vont réfugier. 60 autres vont réfugier. Les grands autres qui sont là, est-ce que tu ne fais rien, mais il faut que tu menaces d'abord. Si tu sais de, tant pis. Si tu ne sais de pas, tu vas prendre, elle va te faire croire qu'elle a accepté malgré, mais elle sera d'abord quand même menacée. Et moi, il y a un truc que je dis sur eux là. Vous accusez le sang à tort. Vous savez pourquoi les hommes? Si moi, j'étais une femme, j'allais faire comme ces femmes. Pourquoi? Vous épousez 9 ans, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle a réussi à vous aimer la fête. Vos enfants, 19 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans. Vous venez, vous dites que vous amenez la deuxième. Vous ne devez non pas seulement prendre de votre femme. Votre premier, si tout votre premier, qui est la première, qui va justifier la deuxième là. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que si vous voulez vraiment, parce que vous avez été vous-même malhonnête, les hommes, pendant que vous étiez avec quelqu'un, vous aviez vos 20 ans, vos 30 ans, vous la trompiez que vous étiez fidèle, vous avez 3, 4 bureaux. Maintenant, après, vous avez un truc que vous voulez dire que non, je prends légalement. Prends légalement. S'il fallait prendre qu'elle était jeune, elle allait mousser, mousser, se passer, passer, après tout, l'équilibre allait venir. Mais tu as laissé, et c'est habitué à toi toute une vie. 40 ans de mariage, c'est là où tu viens prendre. 30 ans de mariage, c'est là où tu veux prendre. Non, vous-même, soyons sérieux, il faut qu'on te dise les vérités en face. Si tu voudrais être habitué à la situation, soit 4 ans, 5 ans, prends. Elle va chauffer, mais dans la 10e année de mariage, l'autre aura fait, elle aura dit, elles vont se supporter, elles vont continuer. Mais vous croyez que c'est possible, 30 ans de mariage, si bien tu mets la 2e? Non, il faut qu'on soit sérieux. Et même quand tu dis même 40 ans, 30 ans de mariage, quand tu avais le plus besoin de la polygamie, c'est quand tu as encore toutes tes forces. C'est pas quand les autres qui déjà se poussent en l'autre pour qu'elles viennent t'accuser. Hein? Une bonne bagarre entre les deux, on se met au milieu en famille, crise cardiaque. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on te dise les vérités. Faites-le quand vous êtes encore jeune, ça vous épargne beaucoup de problèmes plus tard. Mais si vous venez commencer en 40 ans, 50 ans, vous vous connaissez depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, je vous dis que pour trouver la solution à ça, c'est difficile. Un bon jour, vous sortez comme ça là, vous rentrez, c'est votre vie qui l'a raté. Et vous vous amusez, vous allez accuser votre premier épouse alors que c'est même qui a été compris, que ne sait même pas de ça, ne sait même pas de ça. Est-ce que ça n'arrive pas? Ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut plus laisser, il faut que les... Ce genre de choses, il faut qu'on se dise la vérité, souvent la polygamie, c'est fait pour les jeunes. Qui ne peuvent pas supporter, qui ont besoin de se sentir hommes libres. C'est là. Après là, c'est juste la confirmation et puis le secret, la stabilité. Parce que souvent on dit ça, c'est des femmes qui sont, elles ont l'habitude d'avoir 3, 10 ans, 20 ans, de même si tu veux ajouter l'autre, moi je suis derrière son dos. Wallahu ta'ala. Il y a une question qui vient des femmes. Pour qu'un homme prenne une deuxième femme, est-ce qu'il faut l'accord de la première? Non. Et si cette dernière refuse, il laisse tomber, ça les regarde. S'il sent qu'en prenant malgré elle, nous l'avons pas tombé chez lui et puis il y aura plus de problèmes, ça lui de voir. Mais si maintenant il va lutter parce qu'elle va mal se comporter et lui après il a des besoins du haut, entre la colère de la femme et la colère d'Allah, qu'est-ce qui est plus grave? La colère d'Allah, alors si elle se fasse, dit qu'elle fasse son maman, mais je suis dans mes doigts, il prend sa chose. Et puis c'est tout sauf là, c'est ça. Et ça, c'est une solution. Si elle veut t'empêcher d'être dans ton droit et que tu ne peux plus supporter, si elle voit après que ça ne va faire pas, elle te laisse. Parce que toi, tu ne peux pas aussi rester, dire que tu vas la satisfaire et tu mets ton âme en enfer. Là, ça a fait du mahlouk, un filmat, là, tu as. On n'obéit pas à une création en désobéissant au créateur. Hein? Mais toujours est-il que si ce n'est pas une obligation, hein, et que vous ne sentez pas que c'est obligatoire, vaudrait mieux négocier ou laisser. Parce que ça peut vous déstabiliser et vous toucher même au niveau de votre foi et vous ne vous le trouvez pas plus tard. Wallah wa ta'ala. Il y avait une question la fois dernière. Un enfant adopté doit-il être la cible des problèmes de mariage? On voulait par là dire qu'un beau fils, une belle fille, c'est-à-dire soit l'enfant ou le garçon ou la fille de l'homme ou de la femme doit être la cible. Vous savez, quand vous regardez la charia, vous ne pouvez que se tromper. Parce qu'on vous dit que la garde appartient, quand les parents se séparent, la garde appartient à la mère jusqu'à 7 ans. Et quand il atteint 7 ans, il a 3 disciples. Soit ils ne se disputent pas, et ils sont tombés d'accord que l'on garde les enfants et le père s'occupe. Soit ils se disputent, alors là on va faire deux choses. Le Coran tira le sort. On écrit les papiers, le nom de celui qui sort, il prend l'enfant, ou on lance la pièce, il prend l'enfant, si on demande à l'enfant de choisir. Mais il y a un cas où on ne demande même pas de choisir. Quand la mère se remarie et que le père de ses enfants, il le reprend. La garde appartient à cette dernière tant qu'elle ne s'est pas remariée. Vous savez pourquoi est-ce que quand elle se remarie, vous pouvez prendre même si son petit. Parce que quand elle part dans l'autre couple, elle a un autre gros idée. C'est un autre homme. C'est pas lui de prendre la charge de quelqu'un d'autre. Et parfois elle a besoin de plus de temps pour s'occuper de son nouveau mari. Ça diminue l'attention qu'il y a au niveau des enfants. Et après, les enfants, quand ils sont là, ils peuvent être la cause de certaines tensions nerveuses et ça commence à créer des problèmes. Hein? S'ils vont faire ce qu'on appelle Astara commun, ils vont se superposer les uns sur les autres et à la fin, ça commence à exploser. Avec des mauvaises paroles, parfois on va le sortir de la maison. Ou alors parfois la maman ne sera pas bien vue, ou alors chaque fois sera en train de grandir. C'est pour ça que il faut que chacun craigne Allah et savoir qu'il doit faire la part des choses. Al-Rabai, les femmes de vos femmes, les filles de vos femmes, vous sont intégrées en mariage. Parce que du fait que vous avez épousé leur maman, vous ne pouvez plus jamais les épouser. Une interdiction jusqu'au Yom Kippour. Il y a quand même un certain lien. Même si demain vous n'êtes plus avec leur maman, qui peut laisser sa vie à eux, vous n'avez plus le droit d'épouser cette dernière. Il faudrait que les gens essayent de voir ces dimensions et sachent quand même que non, ces enfants, c'est des enfants. et qu'ils fassent l'effort maintenant de nous passer que ces enfants soient la cible de leurs problèmes. Et savoir que quand ils éduquent un enfant, ils ont les récompenses. Hein? À plus forte raison si c'est un orphelin. Le prophète Allah alayhi wa sallam dit que celui qui s'occupe des orphelins, les dieux sont comme ça au paradis. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment important. Il ne faudrait même vos propres enfants, on a dit ici qu'ils ne doivent pas être la cible de vos problèmes. Vous devez les laisser en dehors de vos problèmes. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces enfants. Et on dit que faites des efforts de ne pas les mettre au milieu de leurs problèmes. Vous avez vos problèmes, c'est les enfants, essayez de résoudre vos problèmes et mettez les enfants de l'un et de l'autre hors de vos problèmes. Wallahu ta'ala. Si je fais un enfant avant le mariage, est-ce que je peux l'emmener dans ce foyer? Si mon mari reçoit ses enfants, que fait? Normalement, il est mieux quand vous acceptez l'arbre d'accepter aussi ses fruits. Hein? Quand vous acceptez l'arbre, acceptez aussi. Tu ne peux pas accepter le fruit qui est plus de l'arbre. Est-ce que l'arbre là, le fruit est tombé du ciel? Ça, c'est ce qu'on dit pour parler de la morale. Mais normalement, quand on parle de sentence, le mari a fait quoi? Il dit que non, je ne voudrais pas. Il a aussi le droit d'enquêter d'abord et de poser ce problème avant. Ou alors mettre ça dans les conditions. Si la femme accepte ça, mais si elle le dit, elle ne s'engage pas. Parce qu'il y en a souvent, il n'enquête pas, il parle, il fait les filles, il fait. Après, il dit que non, mais je ne voulais pas ton enfant. Est-ce que ça va monter le feu là où il y a des enfants, les Allemands, ou bien l'Islamisme va le dire? Est-ce qu'il y en a? Donc, on dit qu'il faut faire attention pas passer dans des choses. Il a ce droit, mais il faut quand même regarder la force et l'impact que ça peut avoir dans la société. Et s'il va dire de laisser l'enfant, ramener l'enfant chez son père, ou laisser l'enfant chez votre mère si vous pensez qu'il peut avoir une éducation, ou alors vous pouvez le sujet chez la de mariage, Wallahu ta'ala. Quelqu'un a dit que pouvons-nous faire des femmes qui se droguent en cachette? Qu'elles se droguent en cachette ou en public, la drogue est interdite en islam. Et la loi même du pays qui interdit la drogue et interdit de se droguer, vous pouvez faire la prison. Et la drogue, ça vous détruit vous-même. Et la drogue est un fléau social. S'il faut approcher ce genre de femmes, essayez de voir ce qui la pousse dans cet état, trouver les causes de ce genre de comportement. Et quand vous connaissez bien les causes, inchallah, vous pouvez trouver des solutions. À travers le fait de changer le milieu, parce que le milieu, vous savez que l'environnement influence souvent, vous changez le milieu, et puis maintenant vous essayez d'amener cette personne vers une vie de désintoxication, et vous pouvez amener cette personne au niveau des conseillers qui pourront bien donner des conseils à cette dernière pour l'amener à changer. Parce que la drogue est un fléau, ça détruit notre jeunesse. C'est pour ça qu'on doit combattre ce genre de fléau pour que notre jeunesse soit une jeunesse digne de ce nom et non une jeunesse moribonde droguée qui confie, n'est-ce pas, sur le poids de ce genre de mauvaises choses. Inch'Allah, on va arrêter là parce que le temps nous est imparti et on se sent un peu fatigué. Nous avons décidé dans un premier temps que nous devons parler de ce problème de fonds en compte, mais après il nous a semblé bon de sélectionner certains points, parce que c'était des points que vous connaissez mais que vous négligez, et avec certains points que les gens n'ont pas souvent eu à réfléchir là-dessus. Le domaine des droits et devoirs concernant la femme, c'est un domaine assez vaste et c'est un domaine que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas su que, en fait, ces droits et devoirs sont un corollaire de l'injonction divine. En ce sens que, si les gens avaient compris qu'en respectant ces droits et devoirs, on est en train de respecter la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les gens ne seraient pas tombés dans le durée dans lequel ils tombent. Parce que, il faudrait savoir que quand vous faites votre chose dans le noir, si nous on ne vous voit pas, Allah vous voit. Il faut savoir qu'en tant que mari, si vous êtes injuste envers votre femme, Allah va vous payer, Allah va vous sanctionner, Allah va vous récompenser en fonction de cela. Celui qui a compris cela ne peut plus s'amuser. Il ne va plus faire des choses concernant sa femme par rapport aux autres. C'est la même chose avec la femme. Elle ne fera plus d'études pour que les gens disent qu'elle a bien fait ou pas. Mais elle va faire parce que c'est une adoration et c'est Allah qui a demandé que ce soit comme ça. C'est ça, c'est cette crainte-là qui va faire que si sa vie, quand elle est en train de le faire, elle veut plutôt la récompense divine et non les beaux mots qu'il pourra dire et non la récompense de ces derniers. Parce que vous savez que les hommes, ils savent souvent exceller dans l'ingratitude. C'est pour ça que celle qui sait qu'elle fait pour son Seigneur a fait réussir. Parce que chaque chose qu'elle va le faire, ce sera en toute dévotion et non par rapport au Dieu seulement de ces derniers ou alors par rapport aux autres. Et c'est la même chose que nous disons aux hommes. Lorsque vous recommandez le convenable à vos femmes, faites-le par crainte d'Allah, ne le faites pas par crainte des yeux des gens. Parce que les yeux des gens, là, dans votre temps, ça ne va pas vous récompenser, mais c'est votre sincérité qui va être tenue en compte. Allah nous dit qu'il pardonne nos erreurs, qu'il puisse parfaire nos ménages, qu'il nous enseigne ce qui est bien pour nous et qu'il nous aide avec ce qu'il nous a enseigné, qu'il fasse que nous soyons des bonnes femmes et des bons maris dans nos foyers, qu'il nous donne une bonne progéniture craintive et digne pour les pieux et qu'il fasse qu'il soit ici de cette communauté, un groupe qui recommande le convenable et interdit le blâmable. Et qu'il fasse que la meilleure parole que nous allons prononcer sur cette terre soit la gestation qui nous enseigne de l'unité d'une adoration, c'est Allah et que Mohammed est son envoyé, et que la meilleure des récompenses et le meilleur des jours soit le jour où on va voir sa face sans voile, et qu'il fasse que chaque fois que la vie avance, que ça avance avec les délits, et qu'on puisse mourir en parfaite soumission. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك الله إلى أن الله وفيك جميل